autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour mettre notre humanisme à l'épreuve du présent et des enjeux, des questions vitales qui se posent à nous partout et dans tous les domaines, environnemental, social, économique, politique, démographique, éthique. Comment remettre l'humain au centre, alors même que c'est précisément l'humain, le vivant, tous les vivants, qui sont remis en question aujourd'hui par nos avancées technologiques, comme par la crise climatique. Comment répondre aux dangers et aux inquiétudes de notre temps sans renoncer à notre humanisme? Immense interrogation philosophique, éthique, ouverte par notre invité, le philosophe Frédéric Worms, directeur adjoint de l'École normale supérieure, membre du Comité consultatif national d'éthique, dans un essai inspirant pour un humanisme vital dont nous avons, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner, ici et maintenant, autour de la question « Quelle place pour l'humain dans le moment présent ?» Bienvenue pour nous interroger ensemble. Bonjour Frédéric Worms.
Bonjour Caroline Lachowski et merci de l'invitation.
Merci infiniment d'être en direct avec nous pour partager donc cet humanisme vital que vous appelez de vos voeux et dont nous avons tant besoin aujourd'hui pour un humanisme vital. C'est le titre de votre essai qui vient de paraître donc chez Odile Jacob. Rappelons Frédéric Worms que vous êtes professeur de philosophie contemporaine à l'ENS, l'École normale supérieure dont vous êtes le directeur adjoint, auteur de remarquables ouvrages de philosophie. Vous êtes également membre du Comité consultatif national d'éthique et producteur sur France Culture de Matière à penser. Et il y a matière à penser aujourd'hui à partir de nos inquiétudes partagées. Frédéric Worms, c'est peut-être pour ça que vous avez choisi une forme assez originale, très originale même, la forme de la correspondance pour vous adresser à nous tous dans cet essai qui est sous-titré « Lettres sur la vie, la mort et le moment présent ».
Oui, c'est vrai que ce livre est un peu particulier parce qu'il m'est venu finalement, il s'est débloqué, c'est un travail auquel je réfléchis depuis très longtemps, mais il s'est débloqué dès que j'ai décidé en effet d'écrire à quelqu'un et même à quelqu'une, mais à tout le monde au fond, et à moi-même pour le rédiger. Et au fond, il y a deux choses derrière. Je pense d'abord que dans les questions vitales, quand on parle de questions vitales, pour moi c'est tout ce qui est vital pour nous. Tout ce sans quoi nous ne pouvons pas vivre, tout ce dont l'absence est mortelle finalement. Et on pense souvent à des besoins du corps, individuels comme tels, manger, boire, et on a raison, hein, être habillé, être logé. On pense aussi à des questions globales, la survie de la planète, etc. On pense à des questions humaines, heureusement, c'est très important, mais c'est plutôt la guerre qui nous vient à l'esprit, les conflits politiques, et on a raison. Et on pense moins aux relations vitales, à l'amour, à l'amitié. Et pour moi, en fait, c'est presque le nœud du problème. Et sont vitales aussi nos relations. Et c'est pour ça que c'était très important pour moi d'écrire à quelqu'un. J'avais écrit un livre auparavant qui s'appelait « Penser à quelqu'un ». Et mon idée, c'est que la pensée humaine est toujours une pensée relationnelle. Et c'est par là qu'elle est vitale. On a des pensées aux uns et aux unes qui nous font vivre, qui nous font tenir, d'autres qui nous fragilisent. Et ça s'est débloqué, ce livre sur la vie et la mort, quand je l'ai adressé.
Donc des questions vitales, on l'a bien compris, existentielles sur la vie et la mort. Et sous cette forme-là de correspondance qui fait aussi que vous vous adressez à nous tous, on est tous concernés. Et effectivement, aujourd'hui, on est tous concernés, tous confrontés aux mêmes questions, même si on n'y apporte pas les mêmes réponses, mais aux mêmes questions sur toute la planète.
On est tous concernés par les mêmes questions et en même temps confrontés aussi à un état de la parole humaine dans le monde qui ne s'adresse plus à nous, justement. Une parole qui circule à la fois globalement, des problèmes communs, heureusement, mais aussi en tube, en tuyau, sur les écrans, sur les réseaux. Et l'idée, au contraire, d'une conversation, comme on est en train de la voir, l'idée d'une parole adressée, d'écrire vraiment et de parler aussi à quelqu'un. On pose une question, on répond, même si on se trompe, même si on change de sujet, mais c'est vraiment fondamental. Donc là, c'est vrai que la forme du livre, pour moi, fait partie du fond, fait partie des besoins auxquels on tente de répondre. Et de fait, c'est vrai que j'ai ressenti à la fois l'urgence de l'écrire comme ça et un certain plaisir à l'écrire comme ça. Et donc, je prends aussi le plaisir vital comme critère. Un vitaliste, même critique, comme j'essaye d'être, bah, il se dit aussi, c'est bien de critiquer, c'est bien d'être inquiet. Il faut répondre, mais si on y trouve en plus un peu de plaisir, eh ben c'est aussi un critère qu'on ne fait pas que lutter contre la mort.
C'est ça, parce que dans votre humanisme vital, dans ces questions qu'on se pose tous, vous nous parlez de l'inquiétude, de cette inquiétude partagée. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot inquiétude est intéressante aussi.
L'inquiétude, c'est ce qui ne nous permet pas de nous poser, de nous reposer. Qui est-ce en latin, c'est le repos. Et l'inquiétude, c'est donc le mouvement qui a quelque chose effectivement de perturbant. Pour les anciens, pour les Grecs, les Romains, la sagesse, c'était l'absence de trouble, l'absence de mouvement. Mais le mouvement aussi peut être effectivement d'abord vital au sens biologique. L'inquiétude nous permet de survivre. Quand il y a un danger, il faut bien être un peu inquiet. Dormir sur ses deux oreilles pendant que la tempête arrive, c'est pas terrible, même si c'est des mouvements difficiles. Et puis, pour répondre à l'inquiétude, il faut un autre genre de mouvement, un mouvement à la fois apaisant et un mouvement aussi d'avancer. Je pense que la vie, le vivant, n'est jamais un état stable. Vivre, c'est d'abord ne pas mourir, mais vivre, c'est aussi avancer. Et donc, il n'y a pas de milieu, finalement. Soit on recule et on a peur aujourd'hui face à tous les problèmes, soit on avance un peu. Et donc, l'inquiétude doit nous ébranler au sens aussi de la mise en mouvement, de la mise en branle, de la mise en route. Et donc, je crois qu'il faut plus attendre, il faut se parler.
Vous êtes aux premières loges, en tout cas, pour nous parler et pour toutes ces questions vitales. En tant que membre du Conseil consultatif national d'éthique, c'est aujourd'hui que s'ouvre à l'Assemblée nationale, en France, le débat sur la révision des lois de bioéthique. Petit rappel des faits tout de suite, c'était ce matin sur l'antenne de France Culture.
Le débat annoncé sulfureux va durer 2 semaines et il commence aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, les députés vont examiner le projet de loi de révision des lois de bioéthique. Il prévoit notamment la levée de l'anonymat pour les donneurs de sperme et l'autorisation de la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Des mesures débattues depuis longtemps dans la société et finalement dans l'hémicycle de l'Assemblée, il pourrait être moins enflammé que prévu ce débat.
Moins enflammé ou plus enflammé, on verra bien, Frédéric Worms, car l'attention risque aussi de se focaliser alors sur la PMA, procréation médicalement assistée pour toutes, alors qu'il y a plein d'autres sujets qui sont actuellement soumis à nos députés.
Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin non seulement d'éthique, mais de bioéthique, et non seulement de bioéthique, mais de loi de bioéthique ? Il faut vraiment se poser la question qui, d'ailleurs, finalement, est un des débouchés pour moi dans la partie politique de mon livre, avec les institutions internationales. Je prends 2 exemples, la bioéthique et la cosmopolitique, comme question vitale aujourd'hui pour nous à tous égards. On en a besoin parce que dans les relations humaines dont on parlait, il n'y a pas que du positif. Il y a aussi du négatif, il y a aussi des dangers qui viennent des relations elles-mêmes et parfois des contradictions même dans le positif. Je prends l'exemple de la médecine. Elle veut nous guérir, elle lutte contre la mort, donc elle est positive. Mais en même temps, elle peut aussi créer des problèmes et même rencontrer une autre dimension qui est très juste aussi, qui est par exemple le respect de la liberté. Et donc, par exemple, en fin de vie, on veut empêcher quelqu'un de mourir, et c'est très bien, mais si lui-même exprime un désir différent, on rencontre la question du consentement, la question de la liberté. Donc la bioéthique n'est pas seulement le bien contre le mal, une éthique contre un danger, mais parfois des contradictions entre des désirs tous légitimes, tous fondés dans leur ordre.
D'où la difficulté pour même émettre un avis, pour dire dans quelle direction faut aller, surtout face aux changements extraordinaires qui se profilent.
Venant de la technique.
Et oui, absolument.
Parce que, voilà, votre émission porte aussi sur la science. La technique nous force à prendre position sur des sujets qu'on aurait envie de garder implicites. La vie, la mort, avoir des enfants, au fond, c'est des sujets très profonds. Chacun a sa croyance, ses positions. Et on n'a pas forcément envie de les expliciter, d'être forcé de les justifier et de les opposer aux autres. Et donc, non seulement il y a des conflits, par exemple, entre la santé et la liberté, mais il peut y avoir des conflits entre des conceptions différentes du bien, des religions, des positions non religieuses. Donc, la bioéthique est aussi un dispositif politique qui permet de concilier les vivants humains dans leur désaccord. Et pour moi, au fond, on peut mourir d'une maladie, mais on peut aussi mourir des conflits. Et la bioéthique, c'est pour ça qu'il y a des lois. Elle doit.
Il faut légiférer. Vous pensez qu'on doit aujourd'hui légiférer ?
Pas forcément. La France est un pays où ça passe par la loi. Il y a d'autres pays où ça passera par des avis successifs, des jugements successifs au cas par cas. Dans les pays anglo-saxons, ça passe beaucoup par jurisprudence. Et il y a des cas qui font jurisprudence, comme on dit. Alors, ce n'est pas forcément une loi. La loi oblige à un débat national, ce qui a des bons et des mauvais côtés. Il y a un mauvais côté parce qu'effectivement, ça risque d'embraser les divisions. Il y a un bon côté aussi parce que ça permet d'apaiser aussi. Ça donne un cadre.
Parce que vous dites aussi que pour fonder un humanisme vital, Frédéric Worms, il faut prendre en compte les violences entre humains dans toute leur diversité. Donc c'est pas...
Mais absolument,
parce que... Il faut scoltiner tout ça, nos inquiétudes, nos violences.
Mais oui, parce que en fait, justement, au nom de la peur, au nom des risques vitaux, aujourd'hui, le risque climatique qui est bien réel, ou au nom de la guerre d'ailleurs, on nous invite à ne pas discuter. On dit bah, c'est trop grave, faut pas discuter, mais pas du tout. Il faut au contraire affronter aussi nos divisions parce que c'est d'elles que nous allons aussi mourir. C'est aussi très dangereux de ne pas les désaccords humains engendrent des conflits. Donc il faut les assumer. Et je crois qu'effectivement, faut pas avoir peur du négatif parce que en fait discuter, c'est aussi une avancée majeure pour l'humanité. Arriver à trouver un cadre commun où personne peut-être ne sera totalement content, mais un cadre commun où chacun peut ensuite mener sa vie comme il l'entend, c'est une avancée humaine fondamentale. Donc il y a des divisions entre les humains, il y a je pense, des reculs et des progrès. La bioéthique est un progrès parce qu'une société qui se met d'accord sur des questions de vie ou de mort qui ne sont pas faciles, qui sont contradictoires, qui restent tragiques, parfois, dans la fin de vie. Voilà, je dis souvent qu'en bioéthique, celui qui pense que c'est simple est toujours un peu dans son tort. C'est celui qui pense que c'est compliqué qui, déjà,
mais qu'est-ce qui peut, parce que vous parlez de consensus finalement là, qu'est-ce qui peut faire consensus sur des questions aussi complexes que la fin de vie, la PMA, la GPA, sur laquelle je crois que vous êtes plutôt opposé, enfin dans votre avis, qu'est-ce qui peut faire consensus sur des sujets aussi énormes que ça, sur la vie, la mort et sur lesquels on s'affronte et sur laquelle même, moi-même par exemple, je peux avoir des avis très divergents sur une même question et je peux changer d'avis en écoutant quelqu'un d'autre.
Alors déjà, c'est d'isoler le problème et de comprendre que le problème, c'est aussi d'éviter les conflits. Isoler le problème, on peut prendre plusieurs exemples. Par exemple, sur la fin de vie, c'est justement comprendre qu'il n'y a pas seulement comme but d'éviter la mort, mais parfois aussi de respecter la liberté. Et donc, pas seulement de savoir ce qu'on décide, est-ce que par exemple, on peut décider d'interrompre les traitements, mais qui va le décider? Qui est légitime? Est-ce que c'est le patient? Est-ce que c'est le médecin? Donc, se mettre d'accord sur la procédure aussi. Mm-hmm. Parce que les relations humaines, on l'oublie souvent, sont fondamentales. À la limite, je dirais, la fin de vie, c'est pas une question métaphysique sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort. Parce que là, on va être en désaccord. C'est une question sociale, c'est une question sur les relations humaines. Qui est légitime? Est-ce que c'est le patient, le médecin? Le médecin est légitime. Il veut nous éviter de mourir. Est-ce que c'est les proches? Est-ce que c'est la société en général? Donc je pense que toutes les questions d'éthique sont d'abord des questions relationnelles et pourtant vitales. Et qu'évidemment, il faut tenir compte de ces aspects. Sur la PMA, c'est un peu pareil. Est-ce qu'une technique médicale porte violence à quelqu'un en tant que tel? Pour la GPA, la gestation pour autrui, ça me semble être le cas parce qu'effectivement, la technique elle-même oblige à passer par une grossesse et que ça reste une dimension très, très concrète, très vitale, dont on doit tenir compte. La procréation assistée pour les femmes... sans passer par la gestation pour autrui, on l'utilise déjà dans les couples hétérosexuels, elle ne pose pas de problème éthique en elle-même. Après, la filiation, ce que l'enfant devient dans la société, comment protéger et garantir une enfance heureuse à cet enfant, c'est aussi une question morale. Mais séparons les questions, mettons-nous d'accord sur ce qui est vital dans chaque question et comment les régler entre nous. C'est l'aspect relationnel.
Entre nous, hein,
l'aspect
c'est ça.
Relationnel.
Poser les choses sur la table.
Mais pas des bons sentiments, comme certains disent. Au contraire, c'est le plus difficile et c'est ce que nous devons affronter. Et nous le pouvons.
Et nous le pouvons. Autour de la question comment développer ensemble donc un humanisme vital, comment remettre l'humain au centre et pourquoi on en a tant besoin aujourd'hui de se poser ensemble toutes ces questions vitales, je propose un nouvel éclairage sur le versant de l'humour noir et radical de Blanche Gardin. Extrait de son sketch sur les nouvelles technologies, accrochez-vous car Blanche Gardin ose tout et ne nous brosse jamais dans le sens du poil.
On est tous en train de devenir complètement mégalos en fait. Et le problème, c'est parce que je crois qu'on nous met des outils technologiques de plus en plus sophistiqués entre les mains, des outils qui font des trucs insensés. Et comme on les utilise en permanence, on a l'impression nous-mêmes d'être aussi sophistiqués, aussi intelligents qu'eux, alors que pas du tout en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est pas parce que la technologie évolue que l'homme évolue. Rien, l'avion par exemple. On a on a dépassé le plus ancien fantasme humain, on vole, on a inventé l'avion. Personne dans cette salle ne saurait fabriquer un avion, on est d'accord. Il y a peut-être un mec ou une nana très bricoleur qui pourrait fabriquer un bout de plateau repas éventuellement, mais pas plus. On se gargarise de cette technologie qu'on utilise, on est là avec nos téléphones. Putain, mais t'imagines un Cro-Magnon, il verrait un smartphone, il pèterait un câble, quoi. Ils étaient cons les Cro-Magnons. La différence entre un Cro-Magnon et moi, c'est que le Cro-Magnon, il savait fabriquer son outil de travail. Hein. Il savait tailler un silex, le Cro-Magnon. En fait, c'est humiliant d'être à ce point dépendant d'objets qu'on ne pourrait pas fabriquer. C'est ça, c'est humiliant d'avoir en permanence dans la poche un rectangle qui est un milliard de fois plus intelligent que toi. C'est ça, et c'est triste, cette situation, parce qu'en fait, on s'est fait avoir. Parce qu'il y avait un deal avec le progrès technique. Le progrès technique devait nous assister dans la réalisation de nos rêves et de nos fantasmes. Et c'est pas du tout ça qui s'est produit en fin de compte. En fin de compte, la technologie, elle se les a accaparés, nos rêves et nos fantasmes. C'est ça qui s'est produit. La preuve, c'est qu'on continue de rêver qu'on vole alors qu'on a inventé l'avion. C'est ça, on rêve qu'on vole. On rêve pas qu'on est en train d'assembler des pièces d'Airbus dans un hangar à Toulouse, hein, d'accord ? On rêve pas qu'on pilote l'avion non plus, c'est nul. On rêve qu'on vole, on rêve qu'on ait l'avion. C'est ça le fantasme, le vrai fantasme, c'est de devenir des machines. Mais c'est triste en fait. D'ailleurs, on parle de nous maintenant comme on parlerait de machines. C'est l'expression qu'on a tout le temps à la bouche. Je suis en mode vénère, je suis en mode détente. C'est un langage de machine qu'on utilise à propos de nous. Quoi. Et on se conforme de plus en plus à des process de machine, mais je trouve que c'est assez dangereux.
Bilan assez radical et drôle de Blanche Gardin sur notre perte d'humanité, au fond. Mmh. Frédéric Vente, vous voulez réagir ?
Oui, moi je pense qu'elle a raison sur certains aspects, et peut-être qu'il y a un aspect sur lequel elle n'insiste pas assez. Pour moi, la technique fait partie quand même dans la forme très avancée d'aujourd'hui, même quand personne n'en maîtrise plus tout, reste un prolongement de nos vies. Un prolongement de nos corps, un prolongement de nos organismes. Et donc, ça, c'est déjà très important de le rappeler, parce qu'il y a des gens qui pensent que les techniques sont des abstractions projetées sur le vivant, un accaparement de la nature, quelque chose d'absolument pas naturel du tout. Or, nous sommes humains, nous sommes des vivants, et effectivement, nos lunettes, nos crayons, nos ordinateurs, nos voitures, nos vélos, nos trottinettes, tout ça, c'est des prolongements de nos corps.
Oui, ce sont des outils, des instruments qui nous prolongent.
Voilà, il y a deux choses, en fait, qu'il faut quand même souligner de ce point de vue-là, et qui nourrissent cet humanisme vital qui nous est urgent, il me semble. D'abord, c'est l'idée que la valeur de la technique vient de son usage. Alors, elle parle de l'avion, par exemple. Moi, plutôt que de dire est-ce qu'on peut maîtriser ou pas la fabrication de l'avion, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on en fait. C'est des avions de chasse qui vont bombarder des innocents, ou bien est-ce que c'est des avions de ligne qui vont permettre à des familles de se retrouver ? Est-ce que ça va être un pilote qui va précipiter son avion au sol pour telle ou telle raison, y compris psychique, hein ? Il y a eu un avion en Europe qui s'est écrasé comme ça avec ses passagers. Est-ce qu'au contraire, on va faire progresser, disons, l'humanité à travers des techniques ? Les téléphones portables dont elle parle peuvent sauver des vies, peuvent aussi déclencher des guerres. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est les usages vitaux par les humains des techniques. Alors par contre, elle a quand même raison de dire je pense qu'il y a des seuils dans les techniques. Mais ce n'est pas forcément ce qu'elle dit sur la maîtrise justement du savoir.
Oui, de ne pas être capable de le fabriquer.
Parce qu'il y a un partage social du travail, comme on dit. Je ne sais pas non plus faire du pain, finalement. Moi, en tout cas, je ne sais pas non plus faire ce que font les cordonniers. Voilà. Donc ça a toujours été la division du travail dans l'humain, et de solidarité sociale, que quelqu'un fasse les avions et que d'autres fassent des cours de philo, par exemple. C'est très important aussi, même si tout le monde est un peu philosophe. Mais l'enjeu, c'est plutôt qu'effectivement, certaines techniques font franchir quand même des seuils à l'humain.
Oui, oui.
Je pense que Internet, et j'en parle trop peu peut-être dans le livre, mais un tout petit peu quand même, est un saut qualitatif. C'est pas ça, juste un peu de communication en plus. Ça a changé tout le rapport entre les humains. De même, peut-être
et ce rapport relationnel dont vous parlez, voilà. De même le nucléaire, où la durée de vie des déchets
voilà. Et
change la donne.
Un des gestes d'écrire des lettres aujourd'hui au temps d'Internet, c'est de dire, bon, même au temps d'Internet, et peut-être surtout, il faut encore s'adresser à des messages. Les messages ne sont pas seulement sur des supports neutres. Ça circule entre des humains. Il y a encore quelqu'un de chaque côté. Il y a quelqu'un au bout du fil. Mais ça a un peu changé. Et donc, c'est des sauts qualitatifs. Je pense que le nucléaire est aussi un saut qualitatif. Ne serait-ce que parce que les déchets vont vivre des centaines de milliers d'années. Et effectivement, dans les techniques, en tant qu'elles risquent en tant que telles de détruire la nature, il y a aussi des seuils. Des seuils qu'il ne faut pas franchir. Donc, d'un côté, la technique fait partie du vivant humain, mais d'un autre côté, c'est les usages qui comptent. mais il y a quand même aussi des problèmes qui surgissent de certaines techniques bien précises aujourd'hui.
Aujourd'hui, et c'est vraiment le cas aujourd'hui, dans cette période que nous traversons, qui est quand même une période de grande mutation, de grande transformation.
Oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler d'un tournant anthropologique, c'est-à-dire concernant l'existence de l'humain en général, que dans ces tournants anthropologiques, on s'aperçoit qu'on est vraiment des vivants intégralement. On peut avoir des conceptions sur l'âme et le corps, mais en tout cas, il est certain que l'humanité peut disparaître, donc elle est mortelle, donc vivante et vitale. Tout dans nos vies, on le sait, passe par notre corps, par nos cerveaux, tout ça communique, et on peut tout perdre, la mémoire, les capacités qu'on a acquises. Donc il faut vraiment nous considérer intégralement comme des vivants. Et puis en effet, certaines techniques, je pense que par exemple Internet, C'est pas que l'humain s'affranchit du vivant. Il y a aussi le transhumanisme qui pense qu'avec la technique, on pourra être immortel. Ça, je pense que c'est une grave erreur. Je pense qu'Internet, au contraire, transforme une autre dimension de nos vies, qui est la communication, précisément. Donc Internet est encore une preuve que nous sommes des vivants. Parce que la communication n'est pas une abstraction, passe par ces objets. Là, il y a des micros qui nous permettent de...
Il y a des ordinateurs aussi.
Il y a des gens qui nous entendent, qu'on ne voit pas. C'est quand même quelque chose de fascinant, de magnifique aussi. Mais c'est quelque chose qui est encore vital et peut aussi être mortel. La radio aussi peut servir à propager des messages de haine. Il y a des génocides, par exemple au Rwanda, qui ont été propagés par la radio. Il y a des outils qui peuvent devenir de propagande. Et donc, la vraie question...
À nous de décider
voilà,
de la limite,
c'est les
de
usages,
l'usage qu'on en
fait. Les usages entre les humains.
À propos de ce saut qualitatif et technologique, il s'agit aussi de repenser... quand même, le bien et le mal aujourd'hui à l'ère numérique. C'est autour de cette question-là que nous avions reçu un autre philosophe qui est aussi physicien et que vous connaissez, Alexei Greenbaum, auteur d'un essai sur les robots et le mal. Je propose de l'écouter et vous réagirez ensuite, Frédéric Worms.
Nous nous projetons sur ces machines qui ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des êtres libres et autonomes comme les hommes, mais nous projetons sur eux des qualités, des émotions qui sont les nôtres, y compris le bien et le mal. Et la question ici, ça n'est pas tellement quel mal habite la machine, mais quel mal émerge dans notre rapport, notre relation avec la machine. Ça n'a pas beaucoup de sens de se demander ce que c'est le mal pour le robot lui-même. Bon. On peut peut-être partir un peu dans l'imagination, mais ce qui est important, c'est d'abord se demander quels sont les concepts du bien et du mal qui émergent dans notre interaction avec les machines autonomes.
Donc ce ne sont pas les robots qu'il faut accuser du mal, mais nous, on en revient à la relation, à l'interaction du vivant avec le vivant ou les machines.
Exactement, parce qu'en fait, pour moi en tout cas, le bien et le mal viennent d'abord de nos expériences relationnelles primitives et de ce que nous expérimentons avant tout comme bienveillance ou malveillance, c'est-à-dire des actes venus de quelqu'un et qui nous, en effet, répondent à certains de nos besoins. Et par exemple, ça ne va pas même seulement être des besoins objectifs. On sait très bien que pour le nourrisson humain, c'est ce que s'appelle l'attachement, qui pour moi est au centre des questions vitales d'aujourd'hui, il ne suffit pas pour que l'amour existe entre des êtres, et la reconnaissance et le bien, il ne suffit pas de fournir, par exemple, à manger. Il faut le fournir en s'adressant aux nourrissons. C'est biologique, hein, c'est pas des bons sentiments. C'est-à-dire qu'il y a des expérimentations qui montrent qu'un bébé à qui on donne de la nourriture sans le sourire, sans la chanson, sans la berceuse, et un bébé à qui on donne la berceuse sans la nourriture, il choisira la berceuse, en fait. C'est-à-dire que c'est encore plus vital que quelqu'un vous parle, que quelqu'un vous donne à manger. Évidemment, dans la vie humaine, il faut les deux. C'est-à-dire qu'un nourrisson, on lui donne à manger en lui chantant une chanson, en la lui donnant à lui la nourriture.
S'adresser à lui, c'est vraiment la relation.
Voilà. Ou pas. Et donc, quand on ne s'adresse pas à lui, ça produit de la négativité. Et le pire, c'est la négativité dans les relations qui devraient être bonnes. C'est la malveillance dans ce qui devrait être un soin. C'est pour ça qu'on a inventé en français le mot de maltraitance, qui est la méchanceté dans ce qui devrait être un soin, dans ce qui devrait être un bien chez les infirmières ou chez les parents. Et même en droit français, les gardiens de prison, par exemple, s'ils violentent prisonniers, on dit qu'ils font de la maltraitance parce qu'en fait le prisonnier est confié à leurs soins. Et vous voyez comment on va vite vers la politique, c'est-à-dire que pour moi le mal parmi les humains, c'est la transgression, ce que j'appelle la violation des relations dont on attendrait du bien. Donc il y a une sorte de retournement malheureusement dans les relations humaines. Les robots, de ce point de vue-là, feront ce qu'on les aura programmés pour faire.
Oui, mais quand on se dit que ce sont, mais non, mais quand on dit que ce sont des robots qui, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, vont servir d'auxiliaires, à ce moment-là, on se dit, quand on vous écoute, où sera notre humanisme vital là-dedans? Où sera la relation?
Je n'idéalise pas les machines, mais je les diabolise pas non plus. Je pense que si elles peuvent effectivement prendre le relais des intentions humaines, servir de médiation finalement, quand dans certains cadres, je pense qu'elles pourront être utiles. Le piège sera non seulement quand elles deviendront méchantes, et il y a beaucoup de films là-dessus, quand les robots servent à des intentions mauvaises, peuvent être détournés par des intentions mauvaises, y compris des intentions d'indifférence. L'indifférence est déjà une violence. Donc déjà, un robot qui ne servirait pas aux soins serait déjà forcément violent. Mais tant qu'ils ne sont pas instrumentalisés de façon négative, en eux-mêmes, ils sont neutres pour moi.
Et ce sont les humains qui
les humains le savent. Par exemple, même, je prends parfois l'exemple d'un problème médical à la naissance. On enlève l'enfant à sa mère, il passe dans des machines, c'est terrible. Mais en même temps, il reste sous l'aile du soin. C'est-à-dire qu'il est confié par la mère à la machine. Pour les robots, c'est un peu pareil. Est-ce qu'on confiera un peu un certain soin aux machines? Mais est-ce que c'est un humain d'un côté? Il y aura toujours un humain au bout du fil, c'est une question. Au Comité français d'éthique, il y a eu un rapport sur l'intelligence artificielle. Vous savez, ces réseaux de données qui vont parfois dans le soin. Et ce qu'on demande, c'est qu'il y ait, aux moments cruciaux, ce qu'on appelle des garanties humaines, qu'un humain, un médecin, par exemple, valide ce que la machine aura proposé. Ça devient dérisoire, on se dit, mais où est l'humain? C'est juste une garantie, mais en fait, c'est fondamental. La confiance vient des relations humaines.
Des relations humaines, du vivant. Alors, au nom de tous les vivants que nous sommes, je propose Frédéric Worms d'écouter Les Vivants sur RFI Dupin.
Autour de la question.
J'ai des travails pour les canailles, travailler pour Krumpa. Hier, voli pas mourir des fangas de Tissau. L'Ouma, où est la mespresse, dis une raille de souleur. Si un peu de rousse, va sa benga de Tissau. Yes, le travail est la salut. Yes, moi l'homme plus travaille, mi crébia l'ouvradi, travaille per Krumpa, voudrais espérer que c'est la sienne pour moi de. Nous sommes les vivants, ils ont cessé de me criminaliser les vivants, nous sommes les vivants. Sono caricati la televisione, mesi giamai, mes amis. Ma gli cieli sono tutti un ben vesti. Lume a caffara la lei, esaco che ci fa gau. Lume a caffara la lei. Mai che a fa la lei, a fa l'engane, e sa vi già che le vivan. Sono a trabagliare. Nous sommes les vivants.
Nous sommes les vivants. Dupin sur RFI, ça vous plaît, Frédéric
Worms? Ah, c'est magnifique. Alors vraiment, c'est une découverte. Je pense que je vais me le passer en boucle.
Nous sommes les vivants, c'est pour vous donc, qui venez de publier Pour un humanisme vital aux éditions Odile Jacob, ouvrage dont nous avons, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner. Pour un humanisme vital, donc en réponse aux dangers, aux inquiétudes, aux défis de notre temps, où justement les frontières entre vivants et non vivants sont tout de même de plus en plus floues, on en a parlé pour les machines, mais aussi parfois pour le meilleur, pas seulement pour le pire. Nous recevions hier le philosophe et botaniste Emmanuel Ecoccia, que vous connaissez également, Frédéric Worms, qui s'intéresse suit de très près à la vie végétale, aux implications des plus récentes découvertes sur la communication, la sensibilité des plantes ou l'intelligence des arbres. Emmanuel Ecoccia nous a laissé une question pour vous, Frédéric Worms.
Bonjour Frédéric, j'ai une question. Est-ce que toutes les découvertes scientifiques autour, par exemple, de l'intelligence des plantes ou de leur sensibilité et donc de la nécessité de revoir au moins pour elle nos paradigmes moraux. Est-ce que toutes ces recherches ont un poids dans la redéfinition de ce que tu appelles humanisme et de ce que c'est la morale quotidienne de nous tous?
Votre réponse, Frédéric Vance.
D'abord, merci à vous et merci à lui, à Emmanuel, de cette question très, très directe. Ce que je pense, effectivement, il y a dans mon livre un moment qui passe par les sciences. Hein, le moment du vivant, c'est le moment contemporain où nous réalisons que nous sommes des vivants et que nous partageons donc des choses avec tous les vivants. Les plantes, si on s'y intéresse si fondamentalement aujourd'hui, c'est comme les animaux, comme l'environnement. C'est que nous sommes sur la même planète, nous respirons la même pollution, nous sommes soumis aux mêmes dangers. Et de fait, l'éthique humaine doit retrouver quelque chose de profondément vital. Et la médecine, par exemple, ne peut plus se désintéresser de l'environnement. Et inversement, on doit soigner les plantes. Et voilà. Donc effectivement, il y a une dimension animale très profonde en nous, végétale. Nous sommes des vivants, nous partageons l'ensemble de ces conditions communes. Et pourtant... Il y avait un mais, je ne vais pas vous empêcher de prolonger, mais voilà ce que je répondrais à Emmanuel, c'est qu'aussi il y a une spécificité des humains et que cette responsabilité pour les vivants, elle est humaine. Et que
c'est ça, c'est là où je voulais vous emmener. Au fond, nous avons une responsabilité.
Nous avons une responsabilité, d'ailleurs les plantes pourraient nous le reprocher, nous les avons abîmées en Amazonie ou partout. Les plantes, voilà Rousseau au début de l'Émile, avant Emmanuel Ecotia disait « Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses », c'est-à-dire de Dieu, tout dégénère entre les mains de l'homme, et il citait les animaux qu'on force à marcher sur des pattes, les animaux dressés, des ménageries, et puis les arbres, les poiriers par exemple, qu'on force à pousser horizontalement. En France, voilà, on reproche souvent aux jardiniers français, aux jardins à la française, de faire violence aux arbres, Rousseau le disait déjà. Donc il y a une violence faite à la nature, mais là aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que les humains, ça marche dans les deux sens. C'est la polarité. Les humains sont aussi des vivants qui peuvent embellir la nature, y participer. C'est le jardin, justement, contre peut-être le désert. Et puis, surtout, les fragilités du vivant et des plantes aujourd'hui dépendent de la responsabilité humaine, aussi pour le meilleur. C'est par les institutions humaines qu'on va protéger, y compris les végétaux.
Donc moi, je dirais à Emmanuel,
voilà, pensons comme des plantes, si l'on veut, comme certains disent, pensons comme une montagne, mais pensons aussi aux plantes, comme des humains, c'est-à-dire pensons nous humains à protéger les plantes, mais c'est par les humains que ça va passer au bout
du compte. Alors c'est par les humains, vous avez parlé du mot institution, c'est important aussi, on a parlé tout à l'heure des lois de bioéthique, nous sommes tous sur la même planète, et pour vous, les institutions internationales, vous parlez aussi de vitale démocratie, de vitale politique, les institutions internationales ont un rôle à jouer. Votre ouvrage est inspirant pour chacun d'entre nous, parce qu'on a peut-être encore quelque chose à faire du côté de l'humanisme vital, mais aussi on a quelque chose à faire avec nos institutions.
Mais bien sûr, parce que pour sauver le monde, il faut instituer le monde. Il faut... Les problèmes viennent aussi des conflits entre les humains. C'est jamais seulement la technique qui détruit les plantes. C'est aussi des conflits entre des rapports économiques, entre des pays qui vont se reprocher, parfois à juste titre, des abus de pouvoir. Pourquoi est-ce que certains pays qui n'ont pas pu accéder au développement devraient s'en empêcher pendant que d'autres qui y ont accédé ne se limitent pas eux-mêmes? Donc il y a des vrais conflits. Et donc je pense que la politique du monde passe aussi par des institutions qui, comme pour la bioéthique, vont être des règles du jeu. J'appelle institution, moi, des règles du jeu créées par des humains pour empêcher des conflits ou des dangers.
Et pour empêcher alors le changement climatique ou le bouleversement climatique, puisque actuellement on en parle à l'ONU, les institutions comme l'ONU peuvent faire quelque chose.
J'y crois encore, sans être idéaliste. Je pense que c'est la seule solution et qu'il faut penser un lien entre ce que j'appellerais le minimal, par exemple 2 degrés, ça peut paraître dérisoire, empêcher que le réchauffement climatique dépasse 2 degrés, et le maximal, c'est-à-dire mettre d'accord là-dessus tous les humains. Ce serait déjà magnifique. Pour les génocides, on a réussi tant bien que mal à créer des tribunaux qui empêchent minimalement ou qui punissent minimalement ceux qui ont fait ces crimes monstrueux. C'est minimal, c'est dérisoire. Si on est une victime, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce dérisoire tribunal? Et pourtant, c'est déjà un progrès énorme pour l'humanité. Peut-être plus grand que le pas sur la Lune de Neil Armstrong. Un petit pas pour l'humanité, mais...
D'arriver à s'entendre sur le...
D'arriver à soumettre des États souverains à une loi commune. Eh bien, c'est pareil sur l'environnement. Ce sera la seule façon de sauver la planète, c'est d'arriver à des compromis entre les humains qui sont en fait des conquêtes majeures. Donc il faut que les humains se mobilisent, il faut des ONG, il faut des mouvements de jeunes, de savants, il faut la science, il faut l'éducation, il faut la mobilisation pour arriver à des résultats qui pourront paraître frustrants, mais qui sauveront, y compris les plantes dont parle Emanuele Coccia, qui est botaniste, qui sait bien que le botanique, c'est aussi les jardins botaniques. Et ce n'est pas des réserves artificielles. Aujourd'hui, il faut repenser, évidemment. Le jardin, la façon de protéger.
Tout repenser. J'ai envie de citer un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Il est à Bomekalavi au Bénin et il dit on a plus que jamais besoin d'être unis face aux problèmes du monde. C'est ça en fait. Hein,
absolument, puisque l'un des problèmes majeurs du monde, c'est la division. Et c'est la division qui engendre la guerre. Et donc on a besoin d'être unis en sachant que ça n'est justement pas facile. Moi je pense qu'on croit que l'ennemi c'est l'autre. On a tous des divisions, y compris dans le plus intime. Le problème des humains, ça, dans toutes les cultures humaines, il y a des grands textes sur le fratricide, sur le parricide, sur deux frères qui se sont entretués, dans presque toutes les cultures. C'est un des universels de l'humain. Et donc voilà, pourquoi est-ce que la fraternité est dans la devise française, par exemple ? Je crois que c'est parce que le fratricide est possible. C'est pas de naïveté, c'est au contraire la fraternité qui est un fait biologique, devient une valeur morale parce qu'elle traverse l'épreuve de la négation, de l'épreuve du fratricide.
Voilà pourquoi il faut partager nos inquiétudes et nos pistes.
Parce que l'unité n'est pas donnée. Elle doit toujours se préserver contre le risque de la division.
Alors, contre le risque de la division, et jusqu'où et comment resterons-nous humains, hein, puisque c'est quand même ça la question, quelle place pour l'humain dans le moment présent, aujourd'hui et demain? Les nouvelles questions pour vous, plus individuelles ou individualistes, soulevées par Antoine Petit, le président du CNRS. On l'écoute.
Bonjour. Donc, la vie, la mort sont des sujets évidemment sur lesquels vous êtes beaucoup plus compétent que moi. Mais moi, je voudrais vous poser une question sur la dualité entre homme réparé et homme augmenté. Je trouve que c'est un sujet sur lequel on a sûrement besoin d'un éclairage technique, de sciences dures, mais on a absolument besoin aussi d'un éclairage philosophique ou sociologique. Donc voilà, donc je serais ravi d'avoir votre point de vue sur cette dualité.
Quelle différence, Frédéric Worms, entre un homme réparé, donc souffrant, soigné, et un homme augmenté ?
Y a un risque que ce soit deux directions qui s'opposent totalement, et dans ce cas, ce serait en effet dangereux. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la médecine, et donc les techniques médicales, et l'éthique médicale, visent d'abord à réparer, en effet, à éviter les maux, M-A-U-X, les maladies, les problèmes. Elles ne visent pas à un homme parfait. Donc c'est vrai que, je dirais, réparer, augmenter, ça peut être deux directions opposées, c'est-à-dire ceux qui veulent soigner et ceux qui veulent transcender l'humain, arriver au transhumanisme, augmenter au sens de, voilà, dépasser l'humain. Ça, je crois que c'est un danger très grave, d'abord parce que ce sera certains qui dépasseront l'humain, alors que beaucoup ne seront même pas réparés. Donc commençons par réparer le plus possible avant de... Voilà. En revanche, je pense que le vrai soin ne consiste pas seulement à réparer. J'avais écrit un livre qui s'appelait « Revivre ». C'était aussi contre l'idée de seulement survivre. Il ne faut pas croire que réparer soit un geste uniquement négatif. Bien sûr, il y a une urgence vitale, il faut d'abord survivre. Mais quand même, réparer, c'est toujours aussi un peu augmenter. Un soin, ça nous crée aussi. Quand une mère répare un bobo de son enfant, elle lui ajoute un peu d'amour, etc. Et tout ça entre humains, sans transcendance et avec le risque. Donc en fait, si augmenter, on met une majuscule et on croit au transhumanisme, je crois que ça devient le contraire de la réparation et c'est très dangereux. Si augmenter, c'est le petit supplément de création qui s'ajoute aux soins seulement réparateurs, je crois que c'est fondamental, en revanche. Ces lunettes, là, elles réparent un défaut de vision. On a des lunettes, on a des micros.
Moi, j'ai même un casque sur les oreilles.
Ça répare des déficits, mais ça augmente aussi nos capacités. Et je crois que, finalement, l'augmentation qui s'inscrit dans la réparation, comme quand on console quelqu'un, on le répare, mais aussi on le relance. Et surtout, la réparation ne doit jamais être seulement passive. Elle vient aussi de celui que l'on répare.
On est toujours dans l'adresse, voilà, hein, de l'un à l'autre, et d'un donc, humain à un autre humain, d'un vivant à un autre vivant.
C'est les humains qui s'augmentent mutuellement.
Ah,
et
très
bien. Et pas qui s'augmentent par rapport à je ne sais quelle nature qu'il faudrait dépasser.
Les humains qui s'augmentent mutuellement.
Augmentons-nous les uns les autres.
À méditer en écoutant précisément Rag & Bone Man sur RFI. Humans After All.
Autour de la question.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, think and I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me.
Human After All, Rag and Bone Man sur RFI, c'est pour vous Frédéric Worms.
Oui, ben là aussi, hein, je pense que je vais me la passer en boucle. Merci Caroline Lachowski. Ce que ça m'inspirait au fond, cette chanson-là, c'est le discours des humains sur eux-mêmes. I'm only human, ça veut dire aussi l'humanité, c'est aussi les humanités, c'est-à-dire ce que l'humain connaît de lui-même. Depuis toujours, on appelle humanité au pluriel en français, mais aussi en anglais aujourd'hui, humanities. Finalement, la capacité de l'humain à se connaître soi-même. Il y a, dans l'humanisme, il y a trois choses. Il y a la spécificité de l'humain, il y a la valeur de l'humain, on en a parlé, et puis il y a aussi l'interconnaissance des humains. Comme dit Montaigne, je porte en moi toute l'humaine condition, rien d'humain ne m'est étranger. Mais encore faut-il le savoir. Et c'est pour ça qu'on a besoin. Moi, je me suis engagé aussi dans certaines institutions, mais y compris de savoir, hein, et du côté des humanités. On a besoin de l'art, de la musique. I'm only human, c'est aussi l'expression des humains. Les humains sont des êtres qui s'expriment sur eux-mêmes. Les savoirs humains, à la Renaissance, s'opposaient à la révélation divine. Je pense que chacun peut croire en toute transcendance, qu'il le souhaite, mais tout le monde a besoin aussi du savoir des humains sur eux-mêmes, de se connaître, de savoir ce que les humains ont fait, c'est l'histoire, comment ils vivent, l'anthropologie, les textes qu'ils ont produits, comment ils ont exprimé.
C'est ça qui nous fait humains aussi.
Voilà, c'est en parler, c'est la littérature, c'est la musique, le cinéma, les chansons. Donc l'humain, c'est pourquoi on dit les humanités. Ce pluriel est intéressant, c'est parce que l'humanité, c'est une espèce. C'est une valeur, on te dit être humain, mais c'est aussi une diversité qu'il faut apprendre à connaître.
À propos de cette diversité, précisément, nouvelle question pour vous, Frédéric Worms, autour de la question qu'elle place pour l'humain, pour tous les humains, hein, ici et maintenant sur Terre. C'est la question que vous soumet Claire Hédon, notre directrice des magazines sur RFI, qui est aussi la présidente d'ATD Quart Monde, et à ce titre, comme vous, Frédéric Worms, membre du Comité consultatif national d'éthique.
Bonjour Frédéric Worms. Cette question de la place de l'humain, effectivement, est au cœur de notre action à ATD Quart Monde, nous pose aussi beaucoup de questions. Et on se demande toujours, justement, comment dans ce penser ensemble, ne pas oublier les personnes les plus pauvres, les plus exclues de la société. Je trouve qu'on a tendance à penser entre nous, entre personnes finalement qui pensent à peu près la même chose ou issues des mêmes origines, et on a plus de mal à aller vers des personnes plus exclues, à écouter, entendre leurs pensées, et tout ça prend forcément plus de temps. Et je me disais, mais comment on peut réfléchir à une société qui pense cette société avec les personnes qui ont le sentiment de ne pas en faire partie, d'en être exclues parce que le fonctionnement de notre société a tendance à exclure les plus pauvres. En clair, finalement, comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble, vous, des philosophes, avec des personnes en situation de précarité?
Vous avez une réponse ou une piste de réponse pour Clara Hedon, Frédéric Vance?
C'est une question à la fois magnifique, magnifiquement posée et très importante. Moi, ce que je pense, c'est que l'humanité, c'est évidemment quelque chose de commun. Et c'est des principes universels, et il faut les défendre. Mais en réalité, ce serait des abstractions si ça masquait la diversité d'où provient en réalité l'universel. C'est-à-dire, c'est un peu abstrait, dit
oui,
comme ça.
Oui, expliquez-vous.
Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous humains, nous défendons l'humanisme, l'humanité, mais en fait, il y a des malades et des médecins, il y a des parents et des enfants, il y a des pauvres et des riches, il y a des différences, et il y a dans ces différences parfois des gouffres qui se creusent. Mmh. Et au fond, je pense que les principes universels sont toujours venus du refus de certaines transgressions dans des relations très concrètes. On a défendu la liberté contre des abus de pouvoir. On défend l'égalité parce qu'il y a des inégalités. Je crois qu'on risque toujours d'oublier la différence concrète entre les humains parce qu'on a conquis quelques principes universels, mais ils deviennent abstraits si on n'a pas la différence concrète.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les différences.
Par exemple, nous sommes tous mortels, ce qui est vrai, nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Mais il y a un moment où il y a un mourant qu'il faut sauver, et puis un type qui va un peu moins mal et qui peut faire quelque chose pour le sauver. Donc s'il dit, mais moi aussi je suis mortel, c'est une assistance à personne en danger, c'est un crime. De même, si on dit, nous sommes tous humains, ce que je pense, il faut défendre l'humanisme, il faut aussi montrer qu'il y a des humains qui sont plus vulnérables, plus fragiles que d'autres et qu'il faut les secourir. Et donc la pauvreté, qu'il y ait des inégalités dans un pays, c'est sans doute inévitable. Mais que ces inégalités deviennent des gouffres et empêchent des humains de vivre, c'est évidemment un scandale. Et c'est de là que vient l'humanisme. C'est de ces différences-là. Du refus de l'esclavage, c'est du refus de la pauvreté, c'est du refus de l'abus de pouvoir. Ça vient d'abord de refus. Et au fond, moi, je ne pense pas du tout que l'humanisme vienne de bons sentiments, qu'ils soient évidents. L'humanisme vient justement de sentiments décisifs, mais qui sont conquis contre des risques et par des refus.
C'est une résistance.
C'est une résistance. Et je crois que Claire Hedon a raison. À chaque fois, il faut rappeler, mais on risque toujours de l'oublier. On est confronté, par exemple, au comité d'éthique à des questions biomédicales. Et on oublie que dans ces questions aussi, il y a des problèmes, disons, de genre, des inégalités entre les hommes et les femmes, des inégalités d'accès économique aux biens premiers, des inégalités internationales. Et donc, on risque toujours de se focaliser sur un aspect ou bien de croire l'universel acquis. La seule chose positive dans le moment présent qu'on vit, c'est justement qu'on ne peut plus se bercer d'illusions. C'est que les problèmes reviennent si gravement que tout le monde retrouve un peu la gravité des problèmes. Mon seul souci, c'est qu'il y a deux pièges. Il y a un idéalisme naïf qui oublierait les problèmes. Et puis, il y a une inquiétude sur les problèmes qui nous ferait renoncer à l'universel. Ce n'est pas bien non plus. Je pense que l'outil pour lutter contre les inégalités, c'est encore l'universel, malgré tout, c'est encore les principes de l'humain, mais sans oublier la réalité des différences, des dissymétries, parfois des injustices entre les humains.
Merci infiniment, Frédéric Worms, d'être venu partager ces pistes d'inquiétude et ces joies. Et ces ressources à traverser tout ça ensemble. Je rappelle le titre de votre essai original et inspirant, dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, pour un humanisme vital, Lettres sur la vie, la mort et le moment présent qui vient de paraître chez Odile Jacob.
Merci.
Vous revenez quand vous voulez.
Infiniment à vous, quand vous voudrez.
Je signale aussi ce week-end, 29 septembre à Marseille, un nouveau festival de l'École des hautes études en sciences sociales, joliment intitulé « Allez savoir ». Le thème de cette première édition devrait nous et vous inspirer. Il s'agit encore d'une interrogation vitale, en finir avec la nature, point d'interrogation, avec vous donc Frédéric Worms, mais aussi l'anthropologue Philippe Descola, qui ouvrira la première table ronde demain, mercredi 25 septembre, à 18h à la Vieille Charité à Marseille, avis aux amateurs. Merci à Nicolas Benita, la réalisation Caroline Fillette en coulisses. Rendez-vous demain, chers amis auditeurs. Merci de votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles à l'écoute de RFI.